Chapitre 4. L'existence du pâté de maison qui se trouve le long du vieux Louvre est une de ces protestations que les Français aiment à faire contre le bon sens, pour que l'Europe se rassure sur la dose d'esprit qu'on leur accorde et ne les craigne plus. Peut-être avons-nous là, sans le savoir, quelques grandes pensées politiques. Ce ne sera certes pas un hors-d'œuvre que de décrire ce coin de Paris actuel. Plus tard, on ne pourrait pas l'imaginer, et nos neveux, qui verront sans doute le Louvre achevé, se refuseraient à croire qu'une pareille barbarie ait subsisté pendant 36 ans au cœur de Paris, en face du palais où 3 dynasties ont reçu pendant ces dernières 36 années l'élite de la France et celle de l'Europe. Depuis le guichet qui mène au pont du Carrousel jusqu'à la rue du Musée, tout homme venu, ne fût-ce que pour quelques jours à Paris, remarque une dizaine de maisons à façades ruinées où les propriétaires découragés ne font aucune réparation et qui sont le résidu d'un ancien quartier en démolition depuis le jour où Napoléon résolut de terminer le Louvre. La rue et l'impasse du Doyenné, voilà les seules voies intérieures de ce pâté sombre et désert où les habitants sont probablement des fantômes, car on n'y voit jamais personne. Le pavé, beaucoup plus bas que celui de la chaussée de la rue du Musée, se trouve au milieu de celle de la rue Froidmanteau. Enterrées déjà par l'exhaussement de la place, ces maisons sont enveloppées de l'ombre éternelle que projettent les hautes galeries du Louvre, noircies de ce côté par le souffle du nord. Les ténèbres, le silence, l'air glacial, la profondeur caverneuse du sol concourent à faire de ces maisons des espèces de cryptes, des tombeaux vivants. Lorsqu'on passe en cabriolet le long de ce demi-quartier mort et que le regard s'engage dans la ruelle du Doyenné, l'âme a froid. L'on se demande qui peut demeurer là, ce qui doit s'y passer le soir, à l'heure où cette ruelle se change en coupe-gorge et où les vices de Paris, enveloppés du manteau de la nuit, se donnent pleine carrière. Ce problème, effrayant par lui-même, devient horrible quand on voit que ces prétendues maisons ont pour ceinture un marais du côté de la rue de Richelieu, un océan de pavés moutonnants du côté des Tuileries, de petits jardins, des baraques sinistres du côté des galeries, et des steppes de pierre, de taille et de démolition du côté du vieux Louvre. Henri III et ses mignons, qui cherchent leurs chausses, les amants de Marguerite, qui cherchent leurs têtes, doivent danser des sarabandes au clair de la lune dans ces déserts, dominés par la voûte d'une chapelle encore debout, comme pour prouver que la religion catholique, si vivace en France, survit à tout. Voici bientôt 40 ans que le Louvre crie par toutes les gueules de ses murs éventrés, de ses fenêtres béantes, extirper ces verrues de ma face. On a sans doute reconnu l'utilité de ce coupe-gorge et la nécessité de symboliser au cœur de Paris l'alliance intime de la misère et de la splendeur qui caractérise la reine des capitales. Aussi, ces ruines froides, au sein desquelles le journal des légitimistes a commencé la maladie dont il meurt, les infâmes baraques de la rue du Musée, l'enceinte en planche des étalagistes qui la garnissent, auront-elles la vie plus longue et plus prospère que celle de 3 dynasties peut-être? Dès 1823, la modicité du loyer dans les maisons condamnées à disparaître avait engagé la cousine Bette à se loger là, malgré l'obligation que l'état du quartier lui faisait de se retirer avant la nuit close. Cette nécessité s'accordait d'ailleurs avec l'habitude villageoise qu'elle avait conservée de se coucher et de se lever avec le soleil, ce qui procure aux gens de la campagne de notables économies sur l'éclairage et le chauffage. Elle demeurait donc dans une des maisons auxquelles la démolition du fameux hôtel occupé par Cambacérès a rendu la vue de la place. Au moment où le baron Hulot mit la cousine de sa femme à la porte de cette maison, en lui disant « Adieu, cousine !» une jeune femme, petite, svelte, jolie, mise avec une grande élégance, exhalant un parfum choisi, passait entre la voiture et la muraille pour entrer aussi dans la maison. Cette dame échangea, sans aucune espèce de préméditation, un regard avec le baron, uniquement pour voir le cousin de la locataire. Mais le libertin ressentit cette vive impression, passagère chez tous les Parisiens, quand ils rencontrent une jolie femme qui réalise, comme disent les entomologistes, leur desiderata. Et il mit avec une sage lenteur un de ses gants avant de remonter en voiture pour se donner une contenance et pouvoir suivre de l'œil la jeune femme dont la robe était agréablement balancée par autre chose que par ses affreuses et frauduleuses sous-jupes en crinoline. « Voilà, se disait-il, une gentille petite femme de qui je ferai volontiers le bonheur, car elle ferait le mien. » Quand l'inconnu eut atteint le palier de l'escalier qui desservait le corps de logis situé sur la rue, elle regarda la porte cochère du coin de l'œil, sans se retourner positivement, et vit le baron cloué sur place par l'admiration, dévoré de désir et de curiosité. C'est comme une fleur que toutes les Parisiennes respirent avec plaisir en la trouvant sur leur passage. Certaines femmes, attachées à leurs devoirs, vertueuses et jolies, reviennent au logis assez maussades lorsqu'elles n'ont pas fait leur petit bouquet pendant la promenade. La jeune femme monta rapidement l'escalier. Bientôt, une fenêtre de l'appartement du deuxième étage s'ouvrit et la jeune femme s'y montra. Mais en compagnie d'un monsieur dont le crâne pelé, dont l'œil peu courroucé, révélait un mari. « Sont-elles fines et spirituelles, ces créatures-là ? » se dit le baron. « Elles m'indiquent ainsi sa demeure. C'est un peu trop vif, surtout dans ce quartier-ci. Prenons garde. » Le directeur leva la tête quand il fut monté dans le Milord, et alors la femme et le mari se retirèrent vivement, comme si la figure du baron eût produit sur eux l'effet mythologique de la tête de Méduse. « On dirait qu'ils me connaissent, » pensa le baron. « Alors, tout s'expliquerait. » En effet, quand la voiture eut remonté la chaussée de la rue du Musée, il se pencha pour revoir l'inconnu et il la trouva revenue à la fenêtre. Honteuse d'être prise à contempler la capote sous laquelle était son admirateur, la jeune femme se rejeta vivement en arrière. « Je saurai qui c'est par la chèvre, » se dit le baron. L'aspect du conseiller d'État avait produit, comme on va le voir, une sensation profonde sur le couple. « Mais c'est le baron Hulot, dans la direction de qui se trouve mon bureau ?» s'écria le mari en quittant le balcon de la fenêtre. « Eh bien, Marneffe, la vieille fille du troisième au fond de la cour qui vit avec ce jeune homme est sa cousine. Est-ce drôle que nous n'apprenions cela qu'aujourd'hui, et par hasard ?»« Mademoiselle Fischer, vivre avec un jeune homme !» répéta l'employé. « C'est des cancans de portière. Ne parlons pas si légèrement de la cousine d'un conseiller d'État qui fait la pluie et le beau temps au ministère. » « Tiens, viens dîner, je t'attends depuis 4 heures. » La très jolie Madame Marneffe, fille naturelle du comte de Montcornet, l'un des plus célèbres lieutenants de Napoléon, avait été mariée au moyen d'une dot de 20 000 francs à un employé subalterne du ministère de la Guerre. Par le crédit de l'illustre lieutenant-général, maréchal de France dans les 6 derniers mois de sa vie, ce plumigère était arrivé à la place inespérée de premier commis dans son bureau. Mais au moment d'être nommé sous-chef, la mort du maréchal avait coupé par le pied les espérances de Marneffe et de sa femme. L'exiguïté de la fortune du sieur Marneffe, chez qui s'était déjà fondue la dot de Mademoiselle Valérie Fortin, soit au paiement des dettes de l'employé, soit en acquisitions nécessaires à un garçon qui se monte une maison, mais surtout les exigences d'une jolie femme, habituée chez sa mère à des jouissances auxquelles elle ne voulut pas renoncer, avait obligé le ménage à réaliser des économies sur le loyer. La position de la rue du Doyenné, peu éloignée du ministère de la Guerre et du centre parisien, sourit à monsieur et à madame Marneffe, qui depuis environ 4 ans habitait la maison de Mademoiselle Fischer. Le sieur Jean-Paul Stanislas Marneff appartenait à cette nature d'employé qui résiste à l'abrutissement par l'espèce de puissance que donne la dépravation. Ce petit homme maigre, à cheveux et à barbe grêle, à figure étiolée, pâlote, plus fatigué que ridé, les yeux à paupières légèrement rougis et harnachés de lunettes, de piètre allure et de plus piètre maintien, réalisait le type que chacun se dessine d'un homme traduit aux assises pour attentat aux mœurs. L'appartement, occupé par ce ménage, type de beaucoup de ménages parisiens, offrait les trompeuses apparences de ce faux luxe qui règne dans tant d'intérieurs. Dans le salon, les meubles recouverts en velours de coton passé, les statuettes de plâtre jouant au bronze florentin, le lustre mal ciselé, simplement mis en couleur, à bobèche en cristal fondu, le tapis dont le bon marché s'expliquait tardivement par la quantité de coton introduit par le fabricant, et devenu visible à l'œil nu, tout jusqu'aux rideaux qui vous eussent appris que le damas de laine n'a pas 3 ans de splendeur, tout chantait misère comme un pauvre en haillons à la porte d'une église. La salle à manger, mal soignée par une seule servante, présentait l'aspect nauséabond des salles à manger d'hôtels de province. Tout y était encrassé, mal entretenu. La chambre de monsieur, assez semblable à la chambre d'un étudiant, meublée de son lit de garçon, de son mobilier de garçon, flétrie, usée comme lui-même, et faite une fois par semaine. Cette horrible chambre où tout traînait, où de vieilles chaussettes pendaient sur des chaises foncées de crin, dont les fleurs reparaissaient dessinées par la poussière, annonçait bien l'homme à qui son ménage est indifférent, qui vit au dehors, au jeu, dans les cafés ou ailleurs. La chambre de madame faisait exception à la dégradante incurie qui déshonorait l'appartement officiel, où les rideaux étaient partout jaunes de fumée et de poussière, où l'enfant, évidemment abandonné à lui-même, laissait traîner ses joujoux partout. Située dans l'aile qui réunissait d'un seul côté seulement la maison bâtie sur le devant de la rue, au corps de logis adossé au fond de la cour à la propriété voisine, la chambre et le cabinet de toilette de Valérie, élégamment tendus en perse, à meubles en bois de palissandre, à tapis en moquette, sentaient la jolie femme, et, disons-le, presque la femme entretenue. Sur le manteau de velours de la cheminée s'élevait la pendule, alors à la mode. On voyait un petit Dunkerque, assez bien garni, des jardinières en porcelaine chinoise luxueusement montées. Le lit, la toilette, l'armoire à glace, le tête-à-tête, les colifichets obligés, signalaient les recherches ou les fantaisies du jour. Quoique ce fût du troisième ordre, en fait de richesse et d'élégance, que tout y datât de 3 ans, un dandy n'eût rien trouvé à redire, sinon que ce luxe était entaché de bourgeoisie. L'art, la distinction qui résulte des choses que le goût sait s'approprier, manquait là totalement. Un docteur en sciences sociales eût reconnu l'amant à quelques-unes de ces futilités de riches bijouteries qui ne peuvent venir que de ce demi-dieu, toujours absent, toujours présent chez une femme mariée. Le dîner que firent le mari, la femme et l'enfant, ce dîner retardé de 4 heures, eût expliqué la crise financière que subissait cette famille, car la table est le plus sûr thermomètre de la fortune dans les ménages parisiens. Une soupe aux herbes et à l'eau de haricots, un morceau de veau aux pommes de terre, inondé d'eau rousse en guise de jus, un plat de haricots et de cerises d'une qualité inférieure, le tout servi et mangé dans des assiettes et des plats écornés avec l'argenterie peu sonore et triste du Maillechort. Était-ce un menu digne de cette jolie femme? Le baron en eût pleuré s'il en avait été témoin. Les carafes ternies ne sauvaient pas la vilaine couleur du vin prise au litre chez le marchand de vin du coin. Les serviettes servaient depuis une semaine. Enfin, tout trahissait une misère sans dignité, l'insouciance de la femme et celle du mari pour la famille. L'observateur le plus vulgaire se serait dit, en les voyant, que ces deux êtres étaient arrivés à ce funeste moment où la nécessité de vivre fait chercher une friponnerie heureuse. La première phrase dite par Valérie à son mari va d'ailleurs expliquer le retard qu'avait éprouvé le dîner, dû probablement au dévouement intéressé de la cuisinière. « Samanon ne veut prendre tes lettres de change qu'à 50% et demande en garantie une délégation sur tes appointements. » La misère, secrète encore chez le directeur de la guerre, et qui avait pour paravent un traitement de 24 000 francs, sans compter les gratifications, était donc arrivée à son dernier période chez l'employé. « Tu as fait mon directeur, » dit le mari en regardant sa femme. « Je le crois, » répondit-elle sans s'épouvanter de ce mot pris à l'argot des coulisses. « Qu'allons-nous devenir ? » reprit Marneff. « Le propriétaire nous saisira demain. Et ton père, qui s'avise de mourir sans faire de testament. Ma parole d'honneur, ces gens de l'Empire se croient tous immortels comme leur empereur. « Pauvre père, dit-elle, il n'a eu que moi d'enfant, il m'aimait bien. La comtesse aura brûlé le testament. Comment m'aurait-il oublié, lui qui nous donnait de temps en temps des 3 ou 4 billets de 1 000 francs à la fois ? Nous devons 4 termes, 1 500 francs. Notre mobilier les vaut-il ? That is the question, a dit Shakespeare. Tiens, adieu, mon chat, dit Valérie, qui n'avait pris que quelques bouchées de veau, d'où la domestique avait extrait le jus pour un brave soldat revenu d'Alger. Au grand mot, les grands remèdes. Valérie, où vas-tu ? S'écria Marneff, en coupant à sa femme le chemin de la porte. Je vais voir notre propriétaire, répondit-elle en arrangeant ses anglaises sous son joli chapeau. Toi, tu devrais tâcher de te bien mettre avec cette vieille fille, si toutefois elle est cousine du directeur. L'ignorance où sont les locataires d'une même maison de leur situation sociale réciproque est un des faits constants qui peuvent le plus peindre l'entraînement de la vie parisienne. Mais il est facile de comprendre qu'un employé qui va tous les jours de grand matin à son bureau, qui revient chez lui pour dîner, qui sort tous les soirs, et qu'une femme a donné au plaisir de Paris, puisse ne rien savoir de l'existence d'une vieille fille logée au 3e étage au fond de la cour de leur maison. Surtout quand cette fille a les habitudes de Mademoiselle Fischer. La première de la maison, Lisbeth allait chercher son lait, son pain, sa braise, sans parler à personne, et se couchait avec le soleil. Elle ne recevait jamais de lettres, ni de visites, elle ne voisinait point. C'était une de ces existences anonymes, entomologiques, comme il y en a dans certaines maisons, où l'on apprend au bout de 4 ans qu'il existe un vieux monsieur au 4e qui a connu Voltaire, Pilastre du Rosier, Beaujon, Marcel, Molé, Sophie Arnoux, Franklin et Robespierre. Ce que monsieur et madame Marneff venaient de dire sur Lisbeth Fischer, ils l'avaient appris à cause de l'isolement du quartier et des rapports que leur détresse avait établis entre eux et les portiers dont la bienveillance leur était trop nécessaire pour ne pas avoir été soigneusement entretenue. Or, la fierté, le mutisme, la réserve de la vieille fille avaient engendré chez les portiers ce respect exagéré, ces rapports froids qui dénotent le mécontentement inavoué de l'inférieur. Les portiers se croyaient d'ailleurs dans l'espèce, comme on dit au palais, les égaux d'un locataire dont le loyer était de 250 francs. Les confidences de la cousine Bette à sa petite cousine Hortense étant vraies, chacun comprendra que la portière avait pu, dans quelques conversations intimes avec les Marneff, calomnier Mademoiselle Fischer en croyant simplement médire d'elle. Lorsque la vieille fille reçut son bougeoir des mains de la respectable Madame Olivier, la portière, elle s'avança pour voir si les fenêtres de la mansarde au-dessus de son appartement étaient éclairées. À cette heure, en juillet, il faisait si sombre au fond de la cour que la vieille fille ne pouvait pas se coucher sans lumière. « Oh, soyez tranquille, Monsieur Steinbock est chez lui, il n'est même pas sorti, » dit malicieusement Madame Olivier à Mademoiselle Fischer. La vieille fille ne répondit rien. Elle était encore restée paysanne en ceci qu'elle se moquait du qu'en dira-t-on des gens placés loin d'elle. Et, de même que les paysans ne voient que leur village, elle ne tenait qu'à l'opinion du petit cercle au milieu duquel elle vivait. Elle monta donc résolument, non pas chez elle, mais à cette mansarde. Voici pourquoi. Au dessert, elle avait mis dans son sac des fruits et des sucreries pour son amoureux, et elle venait les lui donner, absolument comme une vieille fille rapporte une friandise à son chien. Elle trouva, travaillant à la lueur d'une petite lampe, dont la clarté s'augmentait en passant à travers un globe plein d'eau, le héros des rêves d'Hortense, un pâle jeune homme blond, assis à une espèce d'établi couvert des outils du ciseleur, de cire rouge, d'ébauchoirs, de socles dégrossis, de cuivre fondu sur modèle, vêtu d'une blouse et tenant un petit groupe en cire à modeler qu'il contemplait avec l'attention d'un poète au travail. « Tenez, Venceslas, voilà ce que je vous apporte, » dit-elle en plaçant son mouchoir sur un coin de l'établi. Puis elle tira de son cabas, avec précaution, les friandises et les fruits. « Vous êtes bien bonne, mademoiselle, » répondit le pauvre exilé d'une voix triste. « Ça vous rafraîchira, mon pauvre enfant. Vous vous échauffez le sang à travailler ainsi. Vous n'étiez pas né pour un si rude métier. » Venceslas Steinbock regarda la vieille fille d'un air étonné. « Mangez donc, » reprit-elle brusquement, « au lieu de me contempler comme une de vos figures quand elle vous plaise. » En recevant cette espèce de gourmade en paroles, l'étonnement du jeune homme cessa, car il reconnut alors son mentor femelle, dont la tendresse le surprenait toujours, tant il avait l'habitude d'être rudoyé. Quoique Steinbock eût 29 ans, il paraissait, comme certains blonds, avoir 5 ou 6 ans de moins, et avoir cette jeunesse, dont la fraîcheur avait cédé sous les fatigues et les misères de l'exil, unie à cette figure sèche et dure, on aurait pensé que la nature s'était trompée en leur donnant leur sexe. Il se leva, s'alla jeter dans une vieille bergère Louis XV, couverte de velours d'Utrecht jaune, et parut vouloir s'y reposer. La vieille fille prit alors une prune de reine Claude et la présenta doucement à son ami. « Merci, » dit-il en prenant le fruit. « Êtes-vous fatiguée ? » demanda-t-elle en lui donnant un autre fruit. « Je ne suis pas fatiguée par le travail, mais fatiguée de la vie, » répondit-il. « En voilà des idées, » reprit-elle avec une sorte d'aigreur. « N'avez-vous pas un bon génie qui veille sur vous ? » dit-elle en lui présentant les sucreries et lui voyant manger tout avec plaisir. « Voyez, en dînant chez ma cousine, j'ai pensé à vous. »« Je sais, » dit-il en lançant sur Lisbeth un regard à la fois caressant et plaintif, « que sans vous, je ne vivrai plus depuis longtemps. Mais, ma chère demoiselle, les artistes ont besoin de distraction. »« Ah, nous y voilà !» s'écria-t-elle en l'interrompant, en se mettant les poings sur les hanches et arrêtant sur lui des yeux flamboyants. « Vous voulez aller perdre votre santé dans les infamies de Paris, comme tant d'ouvriers qui finissent par aller mourir à l'hôpital. Non, non, faites-vous une fortune, et quand vous aurez des rentes, vous vous amuserez, mon enfant. Vous aurez alors de quoi payer les médecins et les plaisirs, libertins que vous êtes. » Venceslas Steinbock, en recevant cette bordée accompagnée de regards qui le pénétraient d'une flamme magnétique, baissa la tête. Si le médisant le plus mordant eût pu voir le début de cette scène, il aurait déjà reconnu la fausseté des calomnies lancées par les époux Olivier sur la demoiselle Fischer. Tout dans l'accent, dans les gestes et dans les regards de ces deux êtres accusait la pureté de leur vie secrète. La vieille fille déployait la tendresse d'une brutale mais réelle maternité. Le jeune homme subissait, comme un fils respectueux, la tyrannie d'une mère. Cette alliance bizarre paraissait être le résultat d'une volonté puissante, agissant incessamment sur un caractère faible, sur cette inconsistance particulière aux Slaves, qui, tout en leur laissant un courage héroïque sur les champs de bataille, leur donne un incroyable décousu dans la conduite, une mollesse morale dont les causes devraient occuper les physiologistes, car les physiologistes sont à la politique ce que les entomologistes sont à l'agriculture. « Et si je meurs avant d'être riche ?» demanda mélancoliquement Venceslas. « Mourir ?» s'écria la vieille fille. « Oh, je ne vous laisserai point mourir. J'ai de la vie pour deux, et je vous infuserai mon sang s'il le fallait. » En entendant cette exclamation violente et naïve, les larmes mouillèrent les paupières de Steinbock. « Ne vous attristez pas, mon petit Venceslas, reprit Lisbeth, émue. « Tenez, ma cousine Hortense a trouvé, je crois, votre cachet assez gentil. Allez, je vous ferai bien vendre votre groupe en bronze. Vous serez quitte avec moi, vous ferez ce que vous voudrez, vous deviendrez libre. Allons, riez donc !»« Je ne serai jamais quitte avec vous, mademoiselle, » répondit le pauvre exilé. « Et pourquoi donc ? » demanda la paysanne des Vosges, en prenant le parti du Livonien contre elle-même. « Parce que vous ne m'avez pas seulement nourrie, logée, soignée dans la misère, mais encore vous m'avez donné de la force. Vous m'avez créé ce que je suis. Vous avez été souvent dure, vous m'avez fait souffrir. « Moi ? » dit la vieille fille. « Allez-vous recommencer vos bêtises sur la poésie, sur les arts, et faire craquer vos doigts, vous détirer les bras en parlant du beau idéal de vos folies du Nord. Le beau ne vaut pas le solide, et le solide, c'est moi. Vous avez des idées dans la cervelle ? La belle affaire. Et moi aussi j'ai des idées. À quoi sert ce qu'on a dans l'âme si l'on n'en tire aucun parti ? Ceux qui ont des idées ne sont pas alors si avancés que ceux qui n'en ont pas, si ceux-là savent se remuer. Au lieu de penser à vos rêveries, il faut travailler. Qu'avez-vous fait depuis que je suis partie ?
Qu'a dit votre jolie cousine ?
Qui vous a dit qu'elle était jolie ? Demanda vivement Lisbeth, avec un accent où rougissait une jalousie de tigre.
Mais vous-même ?
C'était pour voir la grimace que vous feriez. Avez-vous envie de courir après les jupes ? Vous aimez les femmes. Eh bien, fondez-en, mettez vos désirs en bronze, car vous vous en passerez encore pendant quelque temps d'amourette, et surtout de ma cousine, chère amie. Ce n'est pas du gibier pour votre nez. Il faut à cette fille-là un homme de 60 000 francs de rente, et il est trouvé. « Tiens, le lit n'est pas fait, » dit-elle en regardant à travers l'autre chambre. « Oh, pauvre chat, je vous ai oublié !» Aussitôt, la vigoureuse fille se débarrassa de son mantelet, de son chapeau, de ses gants, et comme une servante, elle arrangea lestement le petit lit de pensionnaire où couchait l'artiste. Ce mélange de brusquerie, de rudesse même, et de bonté, peut expliquer l'empire que Lisbeth avait acquis sur cet homme de qui elle faisait une chose à elle. La vie ne nous attache-t-elle pas par ses alternatives de bon et de mauvais ? Si le Livonien avait rencontré Madame Marneff, au lieu de rencontrer Lisbeth Fischer, il aurait trouvé dans sa protectrice une complaisance qui l'eût conduit à quelque route bourbeuse et déshonorante où il se serait perdu. Il n'aurait certes pas travaillé, l'artiste ne serait pas éclos. Aussi, tout en déplorant l'âpre cupidité de la vieille fille, sa raison lui disait-elle de préférer ce bras de fer à la paresseuse et périlleuse existence que menaient quelques-uns de ses compatriotes. Voici l'événement auquel était dû le mariage de cette énergie femelle et de cette faiblesse masculine, espèce de contresens assez fréquent, dit-on, en Pologne. En 1833,
Mademoiselle Fischer, qui travaillait parfois la nuit quand elle avait beaucoup d'ouvrage, sentit, vers 1 heure du matin, une forte odeur d'acide carbonique et entendit les plaintes d'un mourant. L'odeur du charbon et le râle provenaient d'une mansarde située au-dessus des 2 pièces dont se composait son appartement. Elle supposa qu'un jeune homme nouvellement venu dans la maison et logé dans cette mansarde allouée depuis 3 ans se suicidait. Elle monta rapidement, enfonça la porte avec sa force de Lorraine en y pratiquant une pesée et trouva le locataire se roulant sur un lit de sangles dans les convulsions de l'agonie. Elle éteignit le réchaud. La porte ouverte, l'air afflua, l'exilé fut sauvé. Puis, quand Lisbeth l'eut couché comme un malade, qu'il fut endormi, elle put reconnaître les causes du suicide dans le dénuement absolu des 2 chambres de cette mansarde, où il n'existait qu'une méchante table, le lit de sangle et 2 chaises. Sur la table était écrit ce qu'elle lut. « Je suis le comte Wenceslas Steinbock, né à Prélie, en Livonie. Qu'on n'accuse personne de ma mort. Les raisons de mon suicide sont dans ces mots de Kosciusko, Finis Poloniae. Le petit-neveu d'un valeureux général de Charles XII n'a pas voulu mendier. Ma faible constitution m'interdisait le service militaire, et j'ai vu hier la fin des 100 thalers avec lesquels je suis venu de Dresde à Paris. Je laisse 25 francs dans le tiroir de cette table pour payer le terme que je dois au propriétaire. N'ayant plus de parents, ma mort n'intéresse personne. Je prie mes compatriotes de ne pas accuser le gouvernement français. Je ne me suis pas fait connaître comme réfugié, je n'ai rien demandé, je n'ai rencontré aucun exilé, personne ne sait à Paris que j'existe. Je serai mort dans des pensées chrétiennes. Que Dieu pardonne au dernier des Steinbock, Wenceslas. » Mademoiselle Fischer, excessivement touchée de la probité du moribond, qui payait son terme, ouvrit le tiroir et vit en effet 5 pièces de 100 sous. « Pauvre jeune homme » s'écria-t-elle, « et personne au monde pour s'intéresser à lui !» Elle descendit chez elle, y prit son ouvrage et vint travailler dans cette mansarde en veillant le gentilhomme livonien. À son réveil, on peut juger de l'étonnement de l'exilé quand il vit une femme à son chevet. Il crut continuer un rêve. Tout en faisant des aiguillettes en or pour un uniforme, la vieille fille s'était promis de protéger ce pauvre enfant qu'elle avait admiré dormant. Lorsque le jeune comte fut tout à fait éveillé, Lisbeth lui donna du courage et le questionna pour savoir comment lui faire gagner sa vie. Wenceslas, après avoir raconté son histoire, ajouta qu'il avait dû sa place à sa vocation reconnue pour les arts. Il s'était toujours senti des dispositions pour la sculpture, mais le temps nécessaire aux études lui paraissait trop long pour un homme sans argent, et il se sentait beaucoup trop faible en ce moment pour s'adonner à un état manuel ou entreprendre la grande sculpture. Ces paroles furent du grec pour Lisbeth Fischer. Elle répondit à ce malheureux que Paris offrait tant de ressources qu'un homme de bonne volonté devait y vivre. Jamais les gens de cœur n'y périssaient quand ils apportaient un certain fond de patience. « Je ne suis qu'une pauvre fille, moi, une paysanne, et j'ai bien su m'y créer une indépendance, » ajouta-t-elle en terminant. « Écoutez-moi, si vous voulez bien sérieusement travailler, j'ai quelques économies, je vous prêterai mois par mois l'argent nécessaire pour vivre, mais pour vivre strictement, et non pour bambocher, pour courailler. On peut dîner à Paris à 25 sous par jour. Et je vous ferai votre déjeuner avec le mien tous les matins. Enfin, je meublerai votre chambre, et je payerai les apprentissages qui vous sembleront nécessaires. Vous me donnerez des reconnaissances en bonne forme de l'argent que je dépenserai pour vous. Et quand vous serez riche, vous me rendrez le tout. Mais si vous ne travaillez pas, je ne me regarderai plus comme engagé à rien, et je vous abandonnerai. » Ah ! S'écria le malheureux qui sentait encore l'amertume de sa première étreinte avec la mort. Les exilés de tous les pays ont bien raison de tendre vers la France, comme font les âmes du purgatoire vers le paradis. Quelle nation que celle où il se trouve des secours, des cœurs généreux partout, même dans une mansarde comme celle-ci. Vous serez tout pour moi, ma chère bienfaitrice. Je serai votre esclave. Soyez mon ami, dit-il avec une de ces démonstrations caressantes, si familières aux Polonais, et qui les fait accuser, assez injustement, de servilité. Oh non, je suis trop jalouse, je vous rendrai malheureux, mais je serai volontiers quelque chose comme votre camarade, reprit Lisbeth. Oh, si vous saviez avec quelle ardeur j'appelais une créature, fût-ce un tyran, qui voulut de moi, quand je me débattais dans le vide de Paris, reprit Venceslas. Je regrettais la Sibérie, où l'empereur m'enverrait si je rentrais. Devenez ma providence. Je travaillerai, je deviendrai meilleur que je ne suis, quoique je ne sois pas un mauvais garçon. Ferez-vous tout ce que je vous dirai de faire ? Demanda-t-elle. Oui. Eh bien, je vous prends pour mon enfant, dit-elle gaiement. Me voilà avec un garçon qui se relève du cercueil. Allons, nous commençons. Je vais descendre faire mes provisions. Habillez-vous, vous viendrez partager mon déjeuner quand j'aurai cogné au plafond avec le manche de mon balai. Le lendemain, chez les fabricants où Mademoiselle Fischer porta son ouvrage, elle prit des renseignements sur l'état de sculpteur. À force de demander, elle réussit à découvrir l'atelier des Florent et Chanor, maison spéciale où l'on fondait, où l'on ciselait les bronzes riches et les services d'argenterie luxueux. Elle y conduisit Steinbock en qualité d'apprenti sculpteur, proposition qui parut bizarre. On exécutait là les modèles les plus fameux d'artistes, on n'y montrait pas à sculpter. La persistance et l'entêtement de la vieille fille arrivèrent à placer son protégé comme dessinateur d'ornements. Steinbock sut promptement modeler les ornements, il en inventa de nouveaux, il avait la vocation. 5 mois après avoir achevé son apprentissage de ciseleur, il fit la connaissance du fameux Stidmann, le principal sculpteur de la maison Florent. Au bout de 20 mois, Venceslas en savait plus que son maître. Mais en 30 mois, les économies amassées par la vieille fille pendant 16 ans, pièce à pièce, furent entièrement dissipées. 2 500 francs en or. Une somme qu'elle comptait placer en viager, et représentée par quoi ? Par la lettre de change d'un Polonais. Aussi Lisbeth travaillait-elle en ce moment comme dans sa jeunesse, afin de subvenir aux dépenses du Livonien. Quand elle se vit entre les mains un papier au lieu d'avoir ses pièces d'or, elle perdit la tête, et alla consulter M. Rivet, devenu depuis 15 ans le conseil, l'ami de sa première et plus habile ouvrière. En apprenant cette aventure, M. et Mme Rivet grondèrent Lisbeth, la traitèrent de folle, honnirent les réfugiés dont les menées pour redevenir une nation compromettaient la prospérité du commerce, la paix à tout prix, et ils poussèrent la vieille fille à prendre ce qu'on appelle en commerce des sûretés. « La seule sûreté que ce gaillard-là peut vous offrir, c'est sa liberté, » dit alors M. Rivet. M. Achille Rivet était juge au tribunal de commerce. « Et ce n'est pas une plaisanterie pour les étrangers, » reprit-il. « Un Français reste 5 ans en prison, et après il en sort sans avoir payé ses dettes, il est vrai, car il est plus contraignable que par la conscience qui le laisse toujours en repos. Mais un étranger ne sort jamais de prison. Donnez-moi votre lettre de change. Vous allez la passer au nom de mon teneur de livres. Il la fera protester, vous poursuivra tous les deux, obtiendra contradictoirement un jugement qui prononcera la contrainte par corps. Et quand tout sera bien en règle, il vous signera une contre-lettre. En agissant ainsi, vos intérêts courront et vous aurez un pistolet toujours chargé contre votre Polonais. La vieille fille se laissa mettre en règle et dit à son protégé de ne pas s'inquiéter de cette procédure, uniquement faite pour donner des garanties à un usurier qui consentait à leur avancer quelque argent. Cette défaite était due au génie inventif du juge au tribunal du commerce. L'innocent artiste, aveugle dans sa confiance en sa bienfaitrice, alluma sa pipe avec les papiers timbrés, car il fumait comme tous les gens qui ont ou des chagrins ou de l'énergie à endormir. Un beau jour, M. Rivet fit voir à Mademoiselle Fischer un dossier et lui dit « Vous avez à vous 26 Steinbock, pieds et poings liés, et si bien qu'en 24 heures, vous pouvez le loger à Clichy pour le reste de ses jours. » Ce digne et honnête juge au tribunal de commerce éprouva ce jour-là la satisfaction que doit causer la certitude d'avoir commis une mauvaise bonne action. La bienfaisance a tant de manières d'être à Paris que cette expression singulière répond à l'une de ses variations. Une fois le Livonien entortillé dans les cordes de la procédure commerciale, il s'agissait d'arriver au paiement car le notable commerçant regardait Wenceslas Steinbock comme un escroc. Le cœur, la probité, la poésie étaient à ses yeux en affaires des sinistres. Rivet alla voir, dans l'intérêt de cette pauvre Mademoiselle Fischer, qui, selon son expression, avait été dindonnée par un Polonais, les riches fabricants de chez qui Steinbock sortait. Or, secondé par les remarquables artistes de l'orfèvrerie parisienne déjà cités, Stidmann, qui faisait arriver l'art français à la perfection où il est maintenant et qui permet de lutter avec les Florentins et la Renaissance, se trouvait dans le cabinet de Chanor lorsque le brodeur y vint prendre des renseignements sur le nommé Steinbock, un réfugié polonais. « Qu'appelez-vous le nommé Steinbock ? » s'écria railleusement Stidmann. Serait-ce par hasard un jeune Livonien que j'ai eu pour élève? Apprenez, monsieur, que c'est un grand artiste. On dit que je me crois le diable. Eh bien, ce pauvre garçon ne sait pas, lui, qu'il peut devenir un dieu. Ah, quoique vous parliez bien cavalièrement à un homme qui a l'honneur d'être juge au tribunal de la Seine. Excusez, consul, répliqua Stidmann en se mettant le revers de la main au front. Je suis bien heureux de ce que vous venez de dire. Ainsi, ce jeune homme pourra gagner de l'argent. « Certes, dit le vieux Chanor, mais il lui faut travailler. Il en aurait déjà bien amassé s'il était resté chez nous. Que voulez-vous? Les artistes ont horreur de la dépendance. » « Ils ont conscience de leur valeur et de leur dignité, répondit Stidmann. Je ne blâme pas Wenceslas d'aller seul, de tâcher de se faire un nom et de devenir un grand homme, c'est son droit. Et j'ai cependant bien perdu quand il m'a quitté. Voilà, s'écria Rivet, voilà les prétentions des jeunes gens au sortir de leur œuf universitaire. Mais commencez donc par vous faire des rentes et cherchez la gloire après. On se gâte la main à ramasser des écus, répondit Stidmann. C'est à la gloire à nous apporter la fortune. Que voulez-vous, dit Chanor à Rivet, on ne peut pas les attacher. Ils mangeraient le licou, répliqua Stidmann. Tous ces messieurs, dit Chanor en regardant Stidmann, ont autant de fantaisie que de talent. Ils dépensent énormément, ils ont des lorettes, ils jettent l'argent par les fenêtres, ils ne trouvent plus le temps de faire leurs travaux, ils négligent alors leurs commandes. Nous allons chez les ouvriers qui ne les valent pas et qui s'enrichissent, puis ils se plaignent de la dureté des temps, tandis que, s'ils s'étaient appliqués, ils auraient des monts d'or. « Vous me faites l'effet, vieux père Lumignon, dit Stidmann, de ce libraire avant la Révolution qui disait « Ah, si je pouvais tenir Montesquieu, Voltaire et Rousseau, bien gueux, dans la soupente, et regarder leurs culottes dans une commode, comme ils m'écriraient de bons petits livres avec lesquels je me ferais une fortune. Si l'on pouvait forger de belles œuvres comme des clous, les commissionnaires en feraient. Donnez-moi 1000 francs et taisez-vous. » Le bonhomme Rivet revint enchanté pour la pauvre demoiselle Fischer qui dînait chez lui tous les lundis et qu'il allait y trouver. « Si vous pouvez le faire bien travailler, dit-il, vous serez plus heureuse que sage. Vous serez remboursée, intérêts, frais et capital. Ce Polonais a du talent, il peut gagner sa vie. Mais enfermez ses pantalons et ses souliers, empêchez-le d'aller à la chaumière et dans le quartier Notre-Dame de Lorette. Tenez-le en laisse. Sans ces précautions, votre sculpteur flânera, et si vous saviez ce que les artistes appellent flâner, des horreurs, quoi. Je viens d'apprendre qu'un billet de 1 000 francs y passe dans une journée. Cet épisode eut une influence terrible sur la vie intérieure de Venceslas et de Lisbeth. La bienfaitrice trempa le pain de l'exilé dans l'absinthe des reproches lorsqu'elle crut ses fonds compromis, et elle les crut bien souvent perdus. La bonne mère devint une marâtre. Elle morigéna ce pauvre enfant, elle le tracassa, lui reprocha de ne pas travailler assez promptement et d'avoir pris un état difficile. Elle ne pouvait pas croire que des modèles en cire rouge, des figurines, des projets d'ornement, des essais pussent avoir du prix. Bientôt, fâchée de ses duretés, elle essayait d'en effacer les traces par des soins, par des douceurs et par des attentions. Le pauvre jeune homme, après avoir gémi de se trouver dans la dépendance de cette mégère et sous la domination d'une paysanne des Vosges, était ravi des câlineries et de cette sollicitude maternelle éprise seulement du physique, du matériel de la vie. Il fut comme une femme qui pardonne les mauvais traitements d'une semaine à cause des caresses d'un fugitif raccommodement. Mademoiselle Fischer prit ainsi sur cette âme un empire absolu. L'amour de la domination resté dans le cœur de la vieille fille, à l'état de germe, se développa rapidement. Elle put satisfaire son orgueil et son besoin d'action. N'avait-elle pas une créature à elle, à gronder, à diriger, à flatter, à rendre heureuse, sans avoir à craindre aucune rivalité? Le bon et le mauvais de son caractère s'exercèrent donc également. Si, parfois, elle martyrisait le pauvre artiste, elle avait en revanche des délicatesses, semblables à la grâce des fleurs champêtres. Elle jouissait de le voir ne manquant de rien. Elle eût donné sa vie pour lui. Venceslas en avait la certitude. Comme toutes les belles âmes, le pauvre garçon oubliait le mal, les défauts de cette fille, qui, d'ailleurs, lui avait raconté sa vie comme excuse de sa sauvagerie, et il ne se souvenait jamais que des bienfaits. Un jour, la vieille fille, exaspérée de ce que Venceslas était allé flâner au lieu de travailler, lui fit une scène. « Vous m'appartenez !» lui dit-elle. « Si vous êtes honnête homme, vous devriez tâcher de me rendre le plus tôt possible ce que vous me devez. » Le gentilhomme, en qui le sang des Steinbock s'alluma, devint pâle. « Mon Dieu ! » dit-elle, « bientôt nous n'aurons plus pour vivre que les 30 sous que je gagne, moi, pauvre fille !» Les deux indigents, irrités dans le duel de la parole, s'animèrent l'un contre l'autre. Et alors le pauvre artiste reprocha, pour la première fois à sa bienfaitrice, de l'avoir arrachée à la mort, pour lui faire vivre une vie de forçat pire que le néant, ou du moins on se reposait, dit-il, et il parla de fuir. « Fuir ! » s'écria la vieille fille. « Ah, monsieur Rivet avait raison !» Et elle expliqua catégoriquement au Polonais comment on pouvait en 24 heures le mettre pour le reste de ses jours en prison. Ce fut un coup de massue. Steinbock tomba dans une mélancolie noire et dans un mutisme absolu. Le lendemain, dans la nuit, Lisbeth, ayant entendu des préparatifs de suicide, monta chez son pensionnaire, lui présenta le dossier et une quittance en règle. « Tenez, mon enfant, pardonnez-moi, » dit-elle, les yeux humides. « Soyez heureux, quittez-moi, je vous tourmente trop. » Mais dites-moi que vous penserez quelquefois à la pauvre fille qui vous a mis à même de gagner votre vie. Que voulez-vous? Vous êtes la cause de mes méchancetés. Je puis mourir. Que deviendrez-vous sans moi? Voilà la raison de l'impatience que j'ai de vous voir en état de fabriquer des objets qui puissent se vendre. Je ne vous redemande pas mon argent pour moi, allez. J'ai peur de votre paresse que vous nommez rêverie, de vos conceptions qui mangent tant d'heures pendant lesquelles vous regardez le ciel, et je voudrais que vous eussiez contracté l'habitude du travail. » Ce fut dit avec un accent, un regard, des larmes, une attitude qui pénétrèrent le noble artiste. Il saisit sa bienfaitrice, la pressa sur son cœur et l'embrassa au front. « Gardez ces pièces, » répondit-il avec une sorte de gaieté. « Pourquoi me mettriez-vous à Clichy ? Ne suis-je pas emprisonné ici par la reconnaissance ? Cet épisode de leur vie commune et secrète, arrivé 6 mois auparavant, avait fait produire à Venceslas 3 choses. Le cachet que gardait Hortense, le groupe mis chez le marchand de curiosités, et une admirable pendule qu'il achevait en ce moment, car il vissait les derniers écrous du modèle. Cette pendule représentait les 12 heures, admirablement caractérisées par 12 figures de femmes entraînées dans une danse si folle et si rapide que 3 amours, grimpés sur un tas de fleurs et de fruits, ne pouvaient arrêter au passage que l'heure de minuit, dont la chlamyde déchirée restait aux mains de l'amour le plus hardi. Ce sujet reposait sur un socle rond d'une admirable ornementation, où s'agitaient des animaux fantastiques. L'heure était indiquée dans une bouche monstrueuse, ouverte par un bâillement. Chaque heure offrait des symboles heureusement imaginés et qui caractérisaient les occupations habituelles. Il est facile maintenant de comprendre l'espèce d'attachement extraordinaire que Mademoiselle Fischer avait conçu pour son Livonien. Elle le voulait heureux, et elle le voyait dépérissant, s'étiolant dans sa mansarde. On conçoit la raison de cette situation affreuse. La Lorraine surveillait cet enfant du Nord avec la tendresse d'une mère, avec la jalousie d'une femme et l'esprit d'un dragon. Ainsi, elle s'arrangeait pour lui rendre toute folie, toute débauche impossible, en le laissant toujours sans argent. Elle aurait voulu garder sa victime et son compagnon pour elle, sage comme il était par force, et elle ne comprenait pas la barbarie de ce désir insensé, car elle avait pris, elle, l'habitude de toutes les privations. Elle aimait assez Steinbock pour ne pas l'épouser, et elle l'aimait trop pour le céder à une autre femme. Elle ne savait pas se résigner à n'en être que la mère, et se regarder comme une folle quand elle pensait à l'autre rôle. Ces contradictions, cette féroce jalousie, ce bonheur de posséder un homme à elle, tout agitait démesurément le cœur de cette fille. Éprise réellement depuis 4 ans, elle caressait le fol espoir de faire durer cette vie inconséquente et sans issue, où sa persistance devait causer la perte de celui qu'elle appelait son enfant. Ce combat de ses instincts et de sa raison la rendait injuste et tyrannique. Elle se vengeait sur ce jeune homme de ce qu'elle n'était ni jeune, ni riche, ni belle. Puis, après chaque vengeance, elle arrivait, en reconnaissant ses torts en elle-même, à des humilités, à des tendresses infinies. Elle ne concevait le sacrifice à faire à son idole qu'après y avoir écrit sa puissance à coups de hache. C'était enfin la tempête de Shakespeare renversée, Caliban maître d'Ariel et de Prospero. Quant à ce malheureux jeune homme, à pensées élevées, méditatif, enclin à la paresse, il offrait dans les yeux, comme ces lions encagés au jardin des plantes, le désert que sa protectrice faisait en son âme. Le travail forcé que Lisbeth exigeait de lui ne défrayait pas les besoins de son cœur. Son ennui devenait une maladie physique, et il mourait sans pouvoir demander, sans savoir se procurer l'argent d'une folie souvent nécessaire. Par certaines journées d'énergie, où le sentiment de son malheur accroissait son exaspération, il regardait Lisbeth comme un voyageur altéré qui, traversant une côte aride, doit regarder une eau saumâtre. Ces fruits amers de l'indigence et de cette réclusion dans Paris étaient savourés comme des plaisirs par Lisbeth. Aussi prévoyait-elle avec terreur que la moindre passion allait lui arracher son esclave. Parfois elle se reprochait, en contraignant par sa tyrannie et ses reproches ce poète à devenir un grand sculpteur de petites choses, de lui avoir donné les moyens de se passer d'elle.